droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation à Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cet autre numéro de votre magazine Mon droit au quotidien. Au micro, Aoussi Potin. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des mesures à prendre dans l'achat d'une maison ou encore dans l'achat d'un bien immobilier bâti dans le cadre d'une opération immobilière. Aujourd'hui, Abidjan foisonne d'opérations immobilières et beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes sont en quête d'un toit, d'un logement qui leur soit propre. Mais bien des fois, des larmes s'en suivent parce que l'on a manqué de prudence et surtout de vigilance. Raison pour laquelle, dans quelques instants, je serai en compagnie aujourd'hui encore de Jean-Louis Lobé, juriste spécialiste du droit immobilier et foncier, pour vous indiquer, amis auditrices et auditeurs, les précautions les plus importantes à prendre lorsque vous voulez faire l'acquisition d'un bien immobilier bâti, c'est-à-dire d'une maison. Soyez les bienvenus à ce numéro de Mon droit au quotidien.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Jean-Louis Lobé, bonjour.
Bonjour, monsieur Aoussi.
Merci d'être avec nous ce jour. Nous allons donc, comme je l'indiquais tantôt en introduction, à votre compagnie, aider nos auditrices et auditeurs à se prémunir contre les désagréments qui s'ensuivent bien des fois dans l'acquisition d'un bien immobilier bâti ou communément une maison. Alors Jean-Louis Lobé, aujourd'hui, comme je l'indiquais, il y a beaucoup d'opérations immobilières à Abidjan, dans d'autres villes aussi de l'intérieur du pays. Ça montre qu'il y a un engouement pour l'Ivoirien au niveau de l'immobilier. Mais attention, il faut être beaucoup prudent. Alors, première question qui nous vient à l'esprit, quand je veux souscrire à une promotion immobilière pour acheter une maison, quels sont les éléments clés que je dois vérifier lorsque je vais vers un promoteur immobilier?
Est-ce que le promoteur est agréé? C'est-à-dire que pour pouvoir exercer l'activité de vente de maison, on doit avoir une autorisation du ministère de la construction. Donc, en tant que tel, quand on va, on peut poliment demander à celui qui veut nous vendre la maison dans la promotion immobilière, s'il est agréé promoteur. Il va nous montrer donc la décision qu'il a nommée. Deuxièmement, quand on est agréé promoteur, ça veut dire qu'on a le droit de construire et de vendre des maisons. Mais les maisons, on va les construire souvent sur des zones bien définies. On peut nous avoir autorisé à construire des maisons, si c'est à Abidjan par exemple, à Cocody, et ne pas nous autoriser à faire des maisons à Yopougon. Donc pour chaque type de maison, dans chaque endroit, on doit pouvoir avoir une autorisation qu'on appelle l'agrément de la promotion.
Et qui est délivré par ?
Le ministère de la Construction.
Très bien.
Donc qui est l'équivalent du permis de construire en matière de promotion immobilière. Quand vous faites une série de maisons dans un endroit, on estime que vous faites la promotion immobilière. Vous voyez, vous avez souvent des lots de 20, 30, 40, 50, 100 maisons. Et donc, si vous faites de la promotion immobilière, cette série de maisons qui va créer une cité doit être autorisée. Et l'autorisation pour pouvoir le faire, c'est cette autorisation que nous appelons agrément de la promotion. Donc, il faut vérifier l'agrément du promoteur. Donc, celui qui fait l'activité, est-ce qu'il a l'autorisation? Donc, agrément promoteur. Il faut vérifier si les maisons qui vont être construites sont autorisées. Donc, l'agrément de la promotion. C'est deux choses différentes. Agrément promoteur, agrément de la promotion. L'agrément promoteur concerne l'individu ou la société qui fait. L'agrément promotion, les maisons qui vont être construites. En plus de ça, il faut prendre le soin de regarder si au moins il a un papier, un document qui lui permet de construire. En Côte d'Ivoire, pour pouvoir construire en ville, dans les zones urbaines, il faut avoir un ACD, arrêté de concession définitive. Est-ce que sur la zone là, il a un ACD? Si l'ACD, ok, c'est bon. Quand on a levé ces équivoques là, il faut aller plus loin. On va me faire payer comment?
Alors on va y arriver tout à l'heure, parlant donc des modes de paiement. Jean-Louis Lobé, avec votre permission, juste indiquer pour celles ou ceux qui viendraient donc de nous prendre en marche sur Radio de la Paix que vous êtes à l'écoute du magazine Mon droit au quotidien. Aujourd'hui donc en compagnie de Jean-Louis Lobé qui est juriste et spécialiste du droit immobilier et foncier, nous passons en revue les mesures ou encore les précautions les plus importantes à prendre dans l'achat d'une maison dans le cadre d'une promotion immobilière.
Mon droit au quotidien, votre magazine d'information pour connaître et comprendre vos droits et devoirs sur la fréquence de la paix.
Retour à vous, Jean-Louis Lobé. Tout à l'heure, première interrogation, vous nous avez donné les éléments de réponse à la question de savoir quels sont les éléments clés à vérifier lorsque je m'adresse à un promoteur immobilier dans le but d'acquérir une maison. Alors, cette première étape étant franchie, de facto, il va avoir donc un contrat qui va être signé entre moi qui veux une maison et le promoteur immobilier.
En effet.
Dans le cas d'espèce, quels sont les différents types de contrats dans la vente d'une maison qui se présenteront aux deux parties?
Je suis tellement content de cette question parce que ça va me permettre, au-delà de ce que je vais expliquer, à la limite d'énoncer certaines choses.
Allez-y. Vous-en.
Alors, on est dans le cadre de la promotion immobilière. On va vendre une maison à quelqu'un. Donc, en droit des Nations Unies, on va rendre à une personne de la dignité. Parce qu'on estime qu'une personne qui est sans domicile fixe, qui n'a pas un toit, est indigne. Donc, quelqu'un qui veut accéder à une propriété, une maison pour y habiter, veut avoir une sorte de dignité. Et comme vous l'aviez dit dans votre propos liminaire, il ne faudrait pas que ce soit l'occasion pour des personnes de se retrouver indignes avec des larmes. Alors là-dessus, quand vous posez la question des types de contrats, il faudrait bien que nos auditeurs le retiennent. Dans les promotions immobilières, vous n'allez rencontrer que trois types de contrats.
Exclusivement.
Exclusivement.
Y a pas
impérativement.
Plus, ni plus ni moins.
Il n'y a pas ni plus ni moins.
D'accord, on va aller dans les détails.
Donc si vous rencontrez plus, attention, vous pouvez vous faire arnaquer ou avoir des soucis plus tard.
D'accord, ça c'est bien noté.
C'est bien noté. Alors, les trois types de contrats. Mm-hmm. Déjà, il y a deux types de contrats, mais qui peuvent être précédés par un contrat. Donc, on peut dire trois. Mais ce que vous allez rencontrer, c'est deux types de contrats. Il y a ce qu'on appelle la VAT. Il faudra qu'ils notent bien la VAT, qui est prévue par l'article 114 du Code de la construction et de l'habitat. VAT, ça veut dire vente à terme. Et à côté de la VAT, il y a la VFA. VFA veut dire vente en l'état futur d'achèvement, qui est prévue par l'article 111 du Code de la construction et de l'habitat. Ces deux contrats-là peuvent être précédés d'un contrat de réservation. En dehors de ces trois types de contrats, vous ne pouvez pas rencontrer d'autres. Mais il y a une particularité à ces trois types de contrats. Et c'est là que je viens. Les gens font signer souvent des contrats de réservation. Et on réserve et on fait payer aux gens. Mais dans la loi, dans le Code de la construction, quand vous faites signer un contrat de réservation, ce que la loi vous autorise à prendre au maximum, c'est un dépôt de garantie.
Est-ce qu'on a une idée d'un montant?
Le dépôt de garantie ne doit pas dépasser 10% du montant de la maison si la construction ne doit pas dépasser un an. Si la construction doit se faire entre un an et deux ans, le dépôt de garantie ne doit pas dépasser, donc excéder 5% du prix de la maison. Si ça dépasse, ça va au-delà, la construction de la maison doit se faire au-delà de deux ans, vous ne devez pas prendre d'argent. Donc les gens doivent signer simplement le contrat de réservation.
Alors pour se comprendre, les gens du lobby, si on prend une maison qui va coûter 35 millions, si le délai de construction ne dépasse pas un an, les 10% me reviendraient donc pour la réservation à 3 500 000. C'est bien
tout
sûr.
Tout à fait.
Rien d'autre à payer?
Non, rien d'autre.
D'accord, allez-y.
Maintenant, par exception, la loi permet, pour certains cas, lorsque vous prenez de l'argent, en dehors de ces hypothèses, d'avoir un compte séquestre. D'accord. C'est-à-dire, l'argent là, doit être déposé sur un compte sur lequel le promoteur n'a pas la mainmise. De sorte que, si l'opération n'est pas menée jusqu'à son terme, n'aboutit pas, on puisse rembourser les réservataires, les personnes qui ont souscrit à cette promotion immobilière. Mais on constate que beaucoup de personnes aujourd'hui s'engagent dans des opérations sans qu'il y ait des comptes séquestres.
Mais c'est des comptes sécurisés.
Des comptes sécurisés.
Il n'y a pas de risque peut-être d'aller piocher
et puis de
disparaître avec.
Très bien, vous l'avez tout dit. Vous avez tout dit. Donc, on ne peut pas prendre. De sorte que si l'opération n'est pas menée jusqu'à son terme, n'aboutit pas, les personnes qui espéraient avoir de la dignité en ayant un toit ne puissent pas se retrouver à la rue avec leur économie perdue. Mais on constate que c'est tout autre dans la pratique, malheureusement. C'est en déphasage avec le code de la construction et de l'habitat.
Alors, si j'ai fait une réservation pour acquérir donc un bien immobilier bâti, une maison, que le délai donc de livraison était de un an, j'ai fait donc ma réservation avec les 10% du montant total que vous avez indiqué. Si maintenant nous allons au-delà des un an que le promoteur a fixé, s'il excède les un an, Dans le cas d'espèce, quels sont donc les ressorts dont moi je dispose en tant que client?
Vous pouvez dénoncer les termes du contrat et puis demander la résiliation.
Et cela, on me rembourse avec donc des dommages et intérêts?
Oui, mais en ce moment, s'il ne veut pas le faire librement, vous êtes obligé d'avoir recours à la justice. Donc vous allez saisir soit un huissier, un commissaire de justice qui va engager la procédure, ou un avocat qui va écrire la procédure et remettre, ou un juriste conseil. Bon, en tout cas, tout homme de loi qui pourrait vous y accompagner. Mais voilà. Principalement, les avocats et les commissaires de justice.
Merci déjà Jean-Louis Lobé pour ces éléments de réponse. Je voudrais juste indiquer pour celles ou ceux qui nous prendraient en marche maintenant que vous êtes bien sûr sur Radio de la Paix. Et l'espace que vous suivez en ce moment, donc, c'est Mon Droit au quotidien, espace qui vous est dédié pour la bonne connaissance de vos droits et devoirs. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer les précautions à prendre dans l'achat d'une maison dans le cadre d'une promotion immobilière. Retour à mon invité Jean-Louis Lobé. Plus haut, avant donc cette petite aération, vous parliez donc des types de contrats, juste pour récapituler, le VAT ou le VFA, avec donc en début, n'est-ce pas, aussi une option de réservation. Alors, parlons maintenant, vous avez touché un peu ce point tout à l'heure, hein, des différents types de paiements.
Oui.
Qui s'offrent aux clients.
Oui.
Vous avez parlé de compte séquestre.
Oui, déjà.
Alors, c'est important parce que, bien des fois, l'on dit, j'ai été grugé,
oui.
J'ai payé pratiquement la moitié du montant total de la maison, j'ai tout versé, on m'a dit dans un an. Bref, comme vous l'avez dit plus haut, on n'est pas obligé de verser la totalité. Mm-hmm. On peut réserver, dans une réservation, c'est 10% que la loi donc autorise du montant global. Alors, quels sont maintenant.
Nos auditeurs là-dessus peuvent lire les dispositions de l'article 130 du Code de la construction et de l'habitat sur la question. Quand c'est un contrat de réservation, c'est 10% lorsque la construction doit se faire dans un an. C'est 5% lorsque la construction doit se faire en deux ans. Au-delà, pas. Maintenant, si vous voulez outrepasser, c'est-à-dire vous voulez faire payer les gens en dehors de ce dépôt de garantie, vous voyez qu'il y a des gens qui construisent et puis ils vont payer en même temps. Cette somme-là doit être déposée sur un fonds qu'on appelle le compte séquestre. C'est-à-dire un compte bancaire qui est séquestré.
C'est-à-dire qu'on parle maintenant, oui. Jean-Louis. Parlons-en maintenant. Parlons-en maintenant.
Okay.
Voilà. Mais parlons-en donc maintenant, puisque l'on parle de sous.
Oui.
C'est le nerf de la guerre, mais aussi, où c'est bien souvent aussi le nœud de beaucoup de tensions, hein, entre
bien
promoteurs
sûr.
Et puis clients. Alors, quelles sont les précautions à prendre dans le cas du paiement? Quels sont les différents types de comptes qui existent dans ce cas aussi?
Bon, déjà, c'est le compte séquestre, mais il y a l'assurance. Il y a une assurance qui accompagne, donc on peut demander. Mais puisque nous étions sur le contrat de réservation, je vais en profiter.
Allez, utilisez
votre question
venir
à la VAT et à la VFA. Alors, c'est quoi une VAT? Une VAT, c'est une vente à terme. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez verser votre dépôt de garantie, que j'ai évoqué plus tôt, et vous ne payez plus. Vous ne devez plus rien payer et attendre.
La livraison du.
Voilà. Quand la maison elle sort de terre, vous venez, on vous appelle. Ah, monsieur, vous avez déposé un dépôt de garantie. Pour tant, la maison est sortie de terre. Vous allez chez le notaire, vous soldez. On fait vos papiers, c'est terminé.
Alors, quand vous dites que la maison est sortie de terre, Jean-Louis Lobé,
elle
est totalement finie?
Finie.
Livrée?
Livrée.
D'accord.
Mais en matière de livraison, dans la pratique, il y a deux types de livraison. Il y a des gens qui livrent finie aux gros œuvres. C'est-à-dire, on ne vous donne pas des portes, mais la maison est là, si vous placez les portes, des accessoires pour habiter. Il y a des gens qui livrent finie, c'est-à-dire aux secondes œuvres. On a mis portes et toutes ces choses. Donc, il faut savoir aussi lire. Quand on vous dit on vous livre quoi? Aux gros œuvres? Ou on vous lit aux secondes œuvres.
Ça, c'est des choses à demander lorsqu'on signe le
ça,
contrat.
Ça, c'est important. Il faut lire. C'est pour ça qu'il faut lire vos contrats.
C'est
et puis,
ça.
Demander quand même. Il faut lire. Parce qu'il y a des gens qui en finissent. Ah, mais il n'y a pas de porte. Y a pas de... Mais peut-être dans le contrat, on vous a dit.
C'est écrit. Voilà, c'est ça.
On vous livrait aux gros œuvres.
Absolument, absolument.
Vous n'avez pas vu.
D'accord.
Donc, la VAT, vente à terme, vous pouvez verser ce dépôt de garantie. Et quand la maison a fini d'être construite, on vous appelle. Vous allez chez le notaire. Vous signez. Vous soldez. On fait votre acte de transfert de propriété. Vous devenez propriétaire. La VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, prévue par l'article 111 et suivant du Code de la construction. C'est-à-dire ici, vous êtes propriétaire au fur et à mesure qu'on construit. Et vous faites le paiement au fur et à mesure qu'on avance dans la construction. Et la loi a prévu des paliers. À telle étape, vous payez.
On peut avoir une idée à
oui.
Peu près, Jean-Louis Lobé.
20, 60, 90%.
D'accord.
Donc la loi a prévu des étapes au terme desquels vous devez faire vos paiements en fonction de l'évolution pour éviter qu'on ne prenne de l'argent aux adhérents sans que les choses avancent. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui adhèrent, qui finissent de payer, mais les maisons ne sont jamais sorties.
C'est ça, c'est là le gros du problème.
Il n'y a pas d'assurance.
C'est ça.
Donc, on se retrouve à faire des procès avec des gens très souvent qui ont pris la peau d'escampette. C'est pour ça que la loi dit, en dehors de ces hypothèses, il faut un compte séquestre.
Raison pour laquelle mon droit au quotidien a décidé donc d'en parler avec vous ce jour, Jean Lulobé. Alors, autre précision sur ce point, compte séquestre, autre type de compte encore?
Non, c'est le seul compte. Lorsque, oui, c'est l'essentiel. D'accord. Bon, il peut avoir le compte courant, vous virez. Mais quand vous commencez à payer comme ça, en dehors de ce que j'ai décrit, c'est pas sur un compte séquestre, attention.
Donc, à bien vous suivre, le type de compte qui soit le plus approprié, le plus sécurisant pour toutes les parties, c'est le compte séquestre. Séquestre,
en dehors des montants du dépôt de garantie qu'on peut payer. Si on doit faire des paiements échelonnés, c'est bien que ce soit sur un compte séquestre.
Alors, est-ce que moi, en tant que client, je peux exiger du promoteur immobilier qu'il y ait un compte séquestre?
Si lui n'a pas. Vous pouvez exiger, mais en principe, c'est même pas au client d'exiger. C'est une exigence de la loi. C'est la loi qui l'impose.
Au promoteur immobilier?
Oui, au promoteur.
Donc, en fait, c'est au client de vérifier.
Oui, c'est au client de vérifier. Si vous lisez les articles 130 et suivants du Code de la construction, vous allez vous en rendre compte. Je n'invente rien. Et comme l'émission est suivie et qu'on peut toujours vérifier, on donne des références. S'il y a de la contradiction, je serais fort heureux de revenir pour répondre sur vos antennes.
Bon, jusqu'à présent, notre magazine, il n'y a pas eu de contradiction, c'est que les éléments d'information sont donc bons. Merci, Jean-Louis Lobé. Alors, avant qu'on ne conclue donc pour le numéro de ce jour, je rappelle qu'il portait sur les mesures ou précautions à prendre dans l'achat d'une maison dans le cadre d'une promotion immobilière. Alors, on a essayé de voir quand même certaines situations. Hein. Voilà, Jean-Louis Lobé, je voudrais vous les soumettre avant qu'on se dise au revoir. Alors, on se souvient que en 2023, il y a eu donc ces maisons qui ont été détruite hein, dans un quartier d'Abidjan, pour être plus précis, donc au niveau du quartier Gorobité. Alors, 9 villas duplex qui avaient été détruites, pratiquement 500 millions de francs CFA, par le ministère donc de tutelle, parce que n'obéissant pas aux exigences du point de vue de la loi. Et puis, récemment aussi, en début d'année 2024, il y a eu démolition de plusieurs constructions dans la zone autour de Cocody, avec toujours, n'est-ce pas, comme l'a dit, il n'a pas de permis de construire, ni de titre de propriété. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse, mais on en parlait parce qu'il nous est revenu que dans certains cas, eh bien, dans les contrats, il y a des expressions, des thèmes qui existaient, comme par exemple construction rurale ou encore conditions suspensives. Mais c'est des termes qui ont leur poids.
Bien sûr.
Au niveau juridique.
Bien sûr.
Alors, je voulais juste, pour terminer, qu'on revienne sur ces deux points. Alors, lorsque, par exemple, je vais faire l'achat d'une maison.
Oui.
Et puis, on me dit une maison présentée comme étant en zone rurale. Construction rurale.
Oui.
Alors, quelle est la différence avec en zone urbaine?
Alors, la différence, c'est que la zone urbaine, déjà, c'est urbain, donc en ville. Et dans le foncier, quand on parle du droit foncier urbain, quand on dit on est dans une zone urbaine, ça veut dire que on a des documents d'urbanisme qui couvrent la zone. Pour faire plus simple, pour pouvoir construire, pour pouvoir projeter une ville, il y a ce que nous appelons des documents d'urbanisme tels que le schéma directeur urbain, le plan directeur d'urbanisme, qui disent comment on occupe la zone, comment vont être tracées les routes et tout ça. Donc, quand on arrive dans une zone donnée et qu'on veut occuper l'espace, il y a des règles à respecter. Et ces règles-là sont imposées par les documents d'urbanisme. Donc, dès lors qu'on dit qu'on a affaire à du foncier urbain, c'est que dans la zone-là, il y a des papiers. On peut faire un lotissement, on peut faire de l'aménagement. Contrairement à la zone rurale où on n'a pas de documents d'urbanisme. Vous allez voir qu'au village, on ne vous demande pas un permis de construire pour construire. Alors qu'en ville, on va vous demander un permis de construire parce que il y a des règles qui régissent l'occupation du sol.
Alors, on posait la question parce qu'il nous est revenu qu'il y en a qui ont donc acheté des maisons qui étaient présentées comme étant en zone rurale alors qu'elles étaient en zone urbaine.
Mais elles se sont faites tout simplement arnaquer par ces personnes-là. Ou bien peut-être qu'il y a eu la mauvaise foi du vendeur et des professionnels qui ont accompagné le processus.
Alors, le deuxième point qu'on voulait voir avec vous avant de conclure, c'est donc la vente sous conditions suspensives. Ça apparaît dans des contrats.
Oui.
On peut ne pas lire, mais ça a aussi son poids.
Oui, ça a tout son poids. Et je suis franchement heureux de cette question que vous mettez la lumière là-dessus. Quand on dit on vous vend sous conditions suspensives, vous-même vous entendez conditions. Quand on dit quelque chose, il y a conditions, ça veut dire que tout n'est pas réuni. Conditions suspensives, ça veut dire on suspend même. Donc très souvent, dans le domaine foncier, si vous rencontrez, on vous dit on vous vend sous conditions suspensives, ça veut dire que peut-être la personne n'a pas tous les papiers, par exemple, qu'il faut pour vous les vendre. Par exemple, je peux vous vendre le terrain à condition pour moi d'avoir l'ACD dans tel nombre de temps. Mais je ne remplis pas toutes les conditions. Donc sous conditions suspensives. Mais la loi intervient pour réglementer ça durement. Et comme nous parlons de la question de promotion immobilière, j'en profite pour faire un clin d'œil.
Allez, allez-y.
Dans le cadre de la promotion immobilière, l'article 117 du Code de la construction, l'article 128, alinéa 2 du Code de la construction, interdisent les ventes sous conditions suspensives. Donc, les professionnels du secteur qui prêtent leurs offices à ce genre de pratiques doivent davantage faire attention parce que c'est des choses qui pourraient se retourner contre eux. La loi ne reconnaît, dans le cas des promotions immobilières, que le contrat de réservation, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, le contrat de vente à terme. Et tellement qu'on comprend le besoin des gens d'avoir accès directement à la propriété, donc à la maison construite, on interdit les ventes sous condition. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu vends maison et puis tu dis à condition que j'aie tous les papiers. Donc, attends d'avoir tous les papiers pour lui vendre. Mais malheureusement, beaucoup de nos concitoyens ne font pas attention et s'engagent dans ces opérations périlleuses.
En tout cas, merci à vous, Jean-Louis Lobé. Ça aura été un grand plaisir pour nous de vous recevoir donc dans l'espace Mon Droit au Quotidien pour aborder aujourd'hui, je le rappelle, pour celles ou ceux qui nous auraient pris en cours, les mesures ou précautions à prendre dans l'achat d'une maison dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier bâti. Merci pour tous ces éclairages, Jean-Louis Lobé.
Merci à la radio de la paix qui apporte davantage de paix dans l'esprit de nos concitoyens par ces émissions d'une telle audience.
Voilà, nous faisons que jouer notre rôle de journaliste, n'est-ce pas, d'éclairer aussi des consciences collectives hein, dans une société humaine. Merci à vous. Quant merci. À vous, mes auditrices et auditeurs, nous vous disons aussi merci de votre belle écoute et surtout merci de votre fidélité à Mon Droit au Quotidien, qui est l'un des magazines les plus suivis sur Radio de la Paix. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Dans l'attente, portez-vous bien toutes et tous dans la bonne connaissance de vos droits et devoirs.
C'était Mon Droit au Quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation à Aussi Beautin.